Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
We can never be satisfied. As long as our bodies heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the city.
Le Green Book, voyage dans l'Amérique ségrégationniste, épisode 1.
Oh, take me with you, man, when you go.
Bonjour à tous. Prendre la voiture et filer la route parmi les grands espaces américains. C'est ce qu'on vous propose pour deux semaines à Si loin, si proche. Mais on va le faire avec un guide en poche, le Negro Motorist Green Book. Un étonnant petit livre vert à la fois guide de voyage et guide de survie pour les Noirs américains au temps de la ségrégation raciale. Le pasteur King, dans son célèbre discours de 63, « I have a dream », vient de le dire, la mobilité noire, comme tout le reste, n'allait pas de soi en Amérique. Voyager pour les Noirs se faisait alors à leurs risques et périls, dans l'épreuve et la crainte. Et pourtant, ils ont pris la route et arraché cette liberté, avec l'aide du Green Book. Récemment, Hollywood s'est emparé de ce guide, un objet aussi fou et impensable que l'époque à laquelle il essayait de répondre. Nous, à Si loin, si proche, c'est en 2016 que nous avons croisé son chemin pour la première fois. C'était sur la route des droits civiques, dans le sud des États-Unis, entre l'Alabama et la Géorgie.
Before coming to Montgomery, I spent two years in the service, and I was stationed in two of France.
Avant d'arriver à Montgomery, j'ai passé deux ans dans l'armée et j'ai été envoyé à Tours, en France. C'était après la guerre, entre 1948 et 1950. La liberté que nous avons connue là-bas, ce que nous avons vécu, je ne pensais pas pouvoir le vivre un jour en tant qu'homme noir. Je me disais, waouh, c'est ça le monde. Un monde qu'aucun d'entre nous, du moins la plupart, n'avait connu jusque-là. Devoir revenir aux États-Unis après ça, c'était terrible. On devait de nouveau faire attention et être sans cesse sur nos gardes. On ne savait jamais ce qu'il pouvait arriver et on tentait de vivre du mieux possible. Mais ce sentiment de liberté nous manquait tellement. Avoir le droit d'aller dans n'importe quel restaurant, n'importe quel motel quand vous voyagez et ne pas être obligé de dormir sur le bord de la route, parce qu'il n'y a rien pour vous. C'était une époque terrible. Mais grâce au pasteur King, au révérend Abernathy et aux autres leaders du mouvement des droits civiques, nous avons pu connaître ce sentiment à nouveau, en Amérique cette fois.
In America.
Longtemps après ce voyage, ces mots du diacre et vétéran américain John W. Figen de Montgomery nous ont hantés. Certainement, ils ne sont pas étrangers à la grande traversée de l'Amérique que nous menons depuis, sur les différents chemins de liberté que les Noirs américains ont tracés et foulés dans un continent qui les a d'abord enchaînés et réduits en esclavage. En 2019, nous voilà donc au Canada, terre d'accueil et de refuge de dizaines de milliers d'esclaves qui, au XIXe siècle, ont fui les plantations du Sud. Sur les traces du chemin de fer clandestin. Un incroyable réseau abolitionniste de résistance et de fuite, unique au monde. Underground Railroad, c'est son nom, et c'est justement en hommage à ce réseau que l'autrice américaine Candace Taylor a décidé de nommer son dernier livre, consacré au Green Book, nous y voilà, Overground Railroad. Paru en 2020 aux États-Unis aux éditions Abrams, ce livre est le fruit d'une immense investigation à travers le pays et l'histoire du Green Book. Car Candice a sillonné l'Amérique sur près de 80 000 km et plus de 5 000 sites recensés par le Green Book. Quand on l'a contactée, la documentariste et écrivaine basée à New York s'est étonnée et réjouie de notre intérêt. Elle nous a alors ouvert ses archives, son savoir et son regard personnel sur le Green Book.
I started this work in 2013. So that was J'ai commencé mes recherches en 2013. Obama était encore président. Je suis tombée sur le Green Book complètement par hasard. On m'avait missionné pour réaliser un guide de voyage sur la route 66. Vous savez, cette route emblématique des États-Unis qui incarne le mythe du road trip et autour de laquelle il y a encore beaucoup de nostalgie, en particulier chez les familles blanches des banlieues qui prenaient la route avec leurs caravanes. Et donc, alors que j'écrivais ce guide, je me suis rendu compte que 98% des gens qui avaient écrit sur la route 66 étaient des hommes blancs, et que la moitié des comtés situés sur la route 66, il y en a 88 en tout, eh bien la moitié d'entre eux étaient des sundown towns, des villes avec un couvre-feu racial. J'étais ahurie qu'on célèbre cette route comme la route des Américains, alors que la moitié des villes qu'elle traversait étaient des communautés blanches où les Noirs qui osaient s'y aventurer pouvaient avoir de sérieux problèmes, que ce soit des lynchages ou même la mort s'ils se faisaient attraper en ville après 6 heures du soir. Je suis donc tombée comme ça sur le Green Book et j'ai découvert que c'était un guide qui aidait les voyageurs noirs en répertoriant les lieux sûrs où ils pouvaient être accueillis, des endroits tenus par des entrepreneurs noirs, des quartiers, des commerces, différents lieux de la communauté noire où les gens pouvaient s'installer, se détendre et passer un bon moment. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et pour moi, c'était une histoire totalement méconnue. Je suis une femme noire et ça fait 20 ans que je voyage à travers les États-Unis pour mon travail. Je ne connaissais pas du tout ce Green Book. J'ai appelé mes parents. Mon beau-père le connaissait, mais ma mère, comme beaucoup d'amis noirs autour de moi, n'en avait jamais entendu parler. C'était vraiment nouveau pour nous d'explorer cette histoire. Alors je me suis lancée sur la route.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. I get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip? I get your kicks on Route 66.
The Green Book was a travel guide that was published for black people during the Jim Crow era. And so from
Le Green Book était un guide de voyage qui a été publié à destination des noirs sous les lois Jim Crow. Sa publication a commencé en 1936 et a duré jusqu'en 1967.
It was very difficult to know where to go.
Il était indispensable parce que c'était très difficile pour les noirs de savoir où aller pour être en sécurité. Donc on peut dire qu'il a littéralement sauvé des vies.
It wasn't the only one. There were nearly a dozen other black traveler guides.
Pourtant, ce qu'on ignore à propos du Green Book, c'est qu'il n'était pas le seul. Il y avait à peu près une dizaine d'autres guides destinés aux voyageurs noirs. Le premier guide pour les Noirs est publié en 1930. Il s'appelait Hackley et Harrison's. Le Green Book est le deuxième, mais il est aujourd'hui entré dans les mémoires parce qu'il est celui qui a eu la plus large audience et parce qu'il a eu la publication la plus longue. Donc ce guide a été créé par un homme du nom de Victor Green. C'était un travailleur des postes du quartier de Harlem, et au départ, c'était juste un guide pour Harlem et le nord de New York. Après quoi, il s'est rapidement développé parce qu'il y avait un tel besoin. Même à Harlem, qui était une enclave noire, vous avez entendu parler de la Renaissance de Harlem avec ses musiciens, ses théâtres, et tous ces lieux pour les Noirs. Mais malgré cela, c'était encore très ségrégué, et il y avait beaucoup d'endroits, même à Harlem, où les Noirs n'étaient pas les bienvenus. Donc Victor Green, en essayant de régler son propre problème, a réalisé qu'il tenait quelque chose. Et comme je l'ai dit, ce guide a rapidement pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, à la bibliothèque du Schoenberg de New York, on peut retrouver la plus grande collection de Green Book au monde. Ils sont tous numérisés. Donc c'est merveilleux d'avoir accès à ces livres. Vous pouvez chercher en ligne, taper NYPL pour New York Public Library. Vous les trouverez et pourrez les feuilleter. Et vous verrez, ce sont vraiment des archives incroyables qui racontent l'entrepreneuriat noir, la résilience de la communauté noire, mais surtout son ingéniosité.
The idea of the Green Book is to give the motorist and tourist a guide not only to the hotels and tourist restaurants in all of the large cities, but other classifications that can be found useful wherever he may be.
Le Green Book de l'automobiliste noir, édition 1946. L'idée du Green Book est de donner aux touristes et à l'automobiliste un guide, non seulement des hôtels et restaurants touristiques dans la plupart des grandes villes, mais aussi un listing d'autres sites qui pourraient s'avérer utiles à quiconque en aurait besoin. Il y a des milliers d'endroits que le public ne connaît pas encore et qui ne sont pas référencés. Peut-être en connaissez-vous certains ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous envoyer les noms et les adresses de ces endroits afin que nous puissions les partager avec le reste de vos camarades automobilistes.
Quand on parcourt les différentes éditions du Green Book, on est d'abord surpris par l'entrain avec lequel ce guide loue le voyage à grand renfort de couvertures attrayantes et de slogans optimistes comme « For vacation without aggravation », soit « Pour des vacances sans contrariété ». Ou « Carry your green book with you, you may need it », ce qui en français donne « Prenez votre green book avec vous, vous pourriez en avoir besoin ». Ce qui frappe aussi, c'est la modernité de ce guide, lancé par un simple postier disponible sur commande au départ et s'appuyant sur un réseau de voyageurs, qui finalement n'a rien à envier aux plateformes de recommandations touristiques que l'on retrouve aujourd'hui en ligne. En 1962, 2 millions d'exemplaires étaient en circulation. Pour ses recherches, Candice Taylor a longuement parcouru ses archives papier du Green Book. Mais elle a surtout cherché à incarner ce livre, en visitant les sites qu'il recensait et en rencontrant ceux qui les ont connus dans le cadre d'un projet de collecte pour l'American Folklife Center de la Library of Congress. Et elle a accepté de partager avec nous ses archives sonores. Premier extrait.
My name is Alan Threet and I am the grandson of the original owner.
Je m'appelle Alan Threet et je suis le petit-fils du premier propriétaire de la station-service Threet qui a été construite en 1915. Quand j'étais enfant, pendant les vacances scolaires, j'allais à Luther dans la station-service de mon grand-père. Et je me rappelle, j'aimais bien servir l'essence aux touristes de passage, des noirs surtout, mais aussi des blancs qui passaient par là. Je nettoyais les pare-brises, je faisais le pompiste. C'est ce dont je me rappelle.
And because the Green Book, I think, didn't come out till about 1936, somewhere around there.
Et parce que le Green Book n'est sorti qu'en 1936, les Noirs qui voyageaient de la côte est à la côte ouest se passaient les informations par le bouche à oreille, et ils savaient qu'ils pouvaient s'arrêter à la station service Threet et y être à l'aise. Ils avaient de l'essence, des hamburgers ou des hot dogs, et ils pouvaient se garer là sans problème. On avait même une aire de camping à l'arrière de la station, avec des tables où ils pouvaient s'asseoir et manger. Pendant le week-end, mon grand-père, qui avait le sens des affaires, avait installé une piste de danse en bois, et il y avait un jukebox. Alors les gens venaient le vendredi et le samedi soir pour danser, pour boire un verre, partager une bière, manger et s'amuser.
I never did ask grandfather how did you obtain the 160 acres, but somehow the Lord blessed him.
Je n'ai jamais demandé à mon grand-père comment il avait réussi à acheter une ferme de plus de 60 hectares, mais disons qu'à la grâce de Dieu, il avait pu acquérir ce terrain, bâtir sa station au bord de la route 66 et aider les autres Noirs qui ne pouvaient pas s'arrêter dans les stations-service blanches. Moi, Je dis souvent que cet homme noir, mon grand-père, a été envoyé par Dieu pour être une sorte de Moïse pour ceux qui voyageaient et qui avaient besoin d'aide sur la route. Bien sûr, vous le savez, la ségrégation était très dure à l'époque. Les Noirs avaient une vie très difficile et ils ne pouvaient même pas aller en ville après la tombée du jour. C'était tellement, tellement ségrégué ici. Que ce soit ma maman, mes oncles, et encore aujourd'hui d'ailleurs, vous pouvez demander aux plus vieux Noirs qui vivent à Arcadia. Tous savaient qu'après une certaine heure, quand le soleil était couché, ils pouvaient se faire attraper en ville. On comprenait ce qu'était le racisme, mais d'une certaine manière, c'était devenu normal pour nous. On s'y était habitué. Et même quand on allait à Oklahoma City, quand j'étais petit, ma mère nous déposait parfois dans le centre pour prendre le bus. Et près de l'arrêt de bus, il y avait toujours ce grand panneau qui disait « Fontaine d'eau pour les gens de couleur ». Et vous savez, c'était quelque chose qu'on avait tellement vu que ça ne nous ennuyait même plus, parce qu'on s'y était habitué.
Sundown towns are an American phenomenon. It's basically they are towns that are all white, and they were all white on purpose.
Les sundown towns, c'est un phénomène typiquement américain. Ce sont des villes où tout le monde est blanc et c'est le but recherché. C'était très répandu pendant la ségrégation durant la première moitié du XXe siècle. Il y avait les lois Jim Crow dans le sud des États-Unis, mais il ne faut pas oublier qu'au nord aussi, il y avait la ségrégation. Pas dans les textes, mais dans les pratiques. Et les sundown towns en sont un parfait exemple. À l'entrée de ces villes, on trouvait un panneau qui, dans une menace à peine déguisée, disait aux Noirs « Ne laissez pas le soleil descendre sur vos têtes ». Sauf qu'on ne savait pas exactement où se trouvaient ces villes qui bannissaient les Noirs à la nuit tombée. Il n'y avait pas de liste, pas d'Internet ou de Twitter.
So I'd read that black men, especially those who had nicer cars.
J'avais lu que les hommes noirs, surtout ceux qui avaient de belles voitures, ne se déplaçaient jamais sans un chapeau de chauffeur ou une veste sur la banquette arrière de leur voiture, au cas où ils seraient arrêtés par la police. Ils expliquaient alors que ce n'était pas leur voiture, mais qu'ils étaient juste le chauffeur. Donc c'était une ruse utilisée à l'époque sur la route. J'avais lu des choses là-dessus et je me demandais si c'était vrai, parce qu'on ne peut pas toujours croire ce qui est écrit. Alors j'en ai parlé à Ron, mon beau-père, et il m'a dit que oui, il avait vécu une scène similaire quand il était petit. Il avait 7 ans, il était à l'arrière de la voiture de ses parents et il partait en vacances. Ils ont été contrôlés par un shérif et le shérif a demandé « À qui appartient cette voiture? Qu'est-ce que vous faites là? Qui sont ces gens avec vous ?» Alors son père a répondu que c'était la voiture de ses employeurs. Il a regardé sa femme et a prétendu qu'il ne la connaissait pas et que c'était la bonne et que c'était son fils et qu'il les ramenait chez eux. Le shérif a alors demandé « Mais où est votre chapeau ?» « Eh bien, il est à l'arrière, monsieur l'officier », a répondu son père. Et effectivement, il y avait ce chapeau noir. Et pour la première fois, Ron a compris à quoi il servait. Parce que jusque-là, il n'avait jamais vu quelqu'un le porter. Après cet épisode, il a réalisé qu'il y en avait dans plein de voitures.
That was the first time Ron told me these stories. He'd been my stepfather since I was 12. I'd known him.
C'était la première fois que Ron me parlait de tout ça, alors que c'est mon beau-père depuis que j'ai 12 ans. Je le connais pour ainsi dire depuis toujours. C'était un homme du Sud qui avait grandi sous les lois de Jim Crow. Et c'est le genre de personne avec qui on pouvait parler de tout. Il adorait parler. Mais c'est seulement quand j'ai commencé ce projet et que je lui ai posé des questions sur mes lectures qu'il est devenu si important dans ce voyage. À l'époque, je passais des mois sur les routes à explorer les sites du Green Book et on se parlait longuement au téléphone pendant que je conduisais. Il s'inquiétait de savoir si j'étais bien arrivée et je lui envoyais toujours un texto le soir pour le rassurer. Parce que je voyageais seule, je préférais. Au fur et à mesure, notre relation a évolué. Je crois qu'il me faisait confiance et il s'est mis à raconter des histoires dont je n'avais jamais entendu parler. Comme celle de son cousin poursuivi par le Ku Klux Klan, et tant d'autres histoires terribles. Mais en même temps, c'était plein d'espoir. Je le comprenais de mieux en mieux. Lui qui était un homme à la peau très noire aux États-Unis. Quand j'étais adolescente, j'avais parfois du mal à comprendre certains de ses choix ou certaines de ses réactions. J'en parle dans le livre. Et c'était à la fois surprenant et très beau. Mais Ron est décédé, exactement la première semaine où j'ai commencé à écrire ce livre. On avait beau avoir échangé, je n'envisageais pas au départ d'écrire sur lui. Et puis quand il est mort, j'étais dévastée. Je ressentais le besoin d'écrire ses histoires. Quelques semaines après sa mort, j'ai alors appelé mon agent en lui disant « Je sais, je dois écrire ce livre, mais tout ce que j'arrive à faire, c'est écrire les histoires de Ron. Je ne veux pas les oublier. » Et elle m'a dit « Lance-toi. » Et c'est comme ça qu'il est devenu le fil conducteur et narratif de mon livre. Il apparaît dans quasiment tous les chapitres. Je crois que c'est le genre de moment unique, au goût doux amer que l'on peut connaître dans une vie. Mais il humanise le livre d'une manière imprévue et je lui suis reconnaissante.
I draw the line in the dust and toss the garment before the feet of tyranny, and I say segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever.
There's a lot of white people here that say this, that even the dumbest farmer in the world knows that if he has white chickens and black chickens, if the black chickens do better if they're kept in one yard to themselves, the white chickens do better if they're kept in a separate yard to themselves. The eats do better under those conditions.
Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi. Goddamn! Alabama's got me so upset. Lurleen Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi. Hound dogs on my trail, little school children sitting in jail. Black cat crossed my path, I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine. We all gonna get it in due time. Cause I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Tell me, I'll tell you, me and my people just about do. I've been there, so I know, we keep on saying go slow. Well, that's just the trouble.
Too slow.
Washing the windows.
Too slow.
Picking the cotton.
Too slow.
Nothing but rotten.
Too slow.
Too damn lazy.
Too slow.
Thinking's crazy.
Too slow.
Where am I going? What am I doing? I don't know. I don't know. You don't have to live next to me. Just give me my equality. Cause everybody knows about Mississippi. Everybody knows about Alabama. Everybody knows about.
Si loin, si proche, sur RFI. The first time I saw the Green Book, I might have been 8, I'm not sure, but
La première fois que j'ai vu le Green Book, je devais avoir 8 ans. Je ne suis pas trop sûr, mais à 15 mètres du Cozy Corner, le restaurant de mon père au-dessus duquel on vivait, il y avait cette station-service qui s'appelait Arts Esso. Quand le restaurant était plutôt calme en hiver, j'allais des fois en face à la station. Il y avait même un abri pour laver les voitures. Alors je venais aider à sécher les voitures et le gars de la station me donnait 25 cents. À l'époque, j'étais un gros lecteur de comics. J'adorais ça. Et un jour, j'ai vu un livre illustré sur un présentoir de cette station Esso. Il était à 50 cents. Les comics, eux, étaient à 10 cents. J'ai voulu l'acheter, mais M. Hart m'a expliqué que c'était pas un livre pour enfants. Pourtant, ça en avait tout l'air. La couverture était colorée, il n'y avait pas de photo, mais une illustration. Et je me rappelle qu'un jour, mon père m'a finalement expliqué ce que c'était. Lui, il était grec, et il m'a dit, et je crois que j'ai compris à ce moment-là, que c'était un livre pour les gens de couleur, qui leur indiquait où ils pouvaient manger, dormir, aller chez le coiffeur, ou bien trouver un club pour retrouver quelqu'un. Voilà, c'était ma première introduction au Green Book. J'étais assez jeune.
À si loin, si proche, on voyage toujours en Amérique à la découverte de cet étonnant guide, le Green Book, grâce aux archives sonores et au travail de Candice Taylor, auteure de Overground Railroad, un livre paru récemment sur le sujet aux États-Unis. Dino Thompson, un Américain d'origine grecque de Myrtle Beach, en Caroline du Nord, qu'elle a rencontré, vient de nous le dire. Le Green Book avait de quoi intriguer et se trouvait notamment dans les étalages des stations Esso. À cette époque, quand les autres compagnies pétrolières diffusaient des publicités explicitement racistes, Esso affichait dès les années 40 une politique progressiste, d'ouverture aux Noirs, qu'ils soient consommateurs ou employés dans la firme. Et pour mieux comprendre le contexte politique dans lequel s'est développé le Green Book, nous sommes allés interroger l'historienne et américaniste française Sylvie Laurent.
La citoyenneté américaine, elle a été fondée depuis les pères fondateurs sur l'idée de la capacité à se mouvoir, à se déplacer. Les États-Unis sont une colonie de peuplement née à l'Est qui ont eu comme grande idée que l'expression même de l'expérience américaine, c'est celle de bouger, de conquérir du territoire. Et le contrepoint de ça, ça a été l'enfermement, la condamnation à la sédentarité pour les peuples méprisés et les peuples dominés, c'est-à-dire les Indiens, qu'on met dans des réserves et qu'on empêche de bouger, et les Noirs qui sont d'abord physiquement enchaînés dans les plantations, puis ensuite, par les lois de la ségrégation raciale, empêchés, encombrés dans leur capacité à se déplacer, puisque la mobilité noire, c'est un danger, on ne peut plus, c'est dans une logique coloniale. Les indigènes doivent être tenus sur place. Il s'agit quand même de penser l'idée de la clandestinité. C'est-à-dire que ce Green Book, c'est quand même une espèce de petit guide que l'on se passe, alors pas complètement sous le manteau, puisque les stations d'essence Esso, au nom d'une espèce de capitalisme, qu'on pourrait dire un peu néolibéral, vous savez, où on fait des niches, Esso a compris que les Noirs étaient possiblement, notamment ceux-là qui étaient propriétaires d'une automobile, étaient des consommateurs qui étaient peut-être d'un certain intérêt financier, mais il s'agissait néanmoins d'être un peu les passagers clandestins de la liberté de se mouvoir, c'est-à-dire là où les Blancs avaient la possibilité de prendre toutes les routes, de s'arrêter dans toutes les institutions, tous les hôtels, tous les restaurants, tous les arrêts d'autoroute qu'ils pouvaient trouver. Pour les Noirs, il s'agissait de suivre un petit itinéraire qui, en fait, était l'itinéraire de la ségrégation. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez une double carte, la carte pour tous, la carte universelle qui donne accès à toutes les ressources et à toutes ces institutions, et la carte de deuxième catégorie de cette petite minorité d'endroits où vous pouvez vous arrêter, alors vous êtes déjà quand même dans une logique de domination. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire autrement que de suivre ce petit guide de la ségrégation. C'est en fait prendre compte de la réalité selon laquelle vous n'êtes pas le bienvenu et que donc il faut réfléchir à deux fois avant de pouvoir vous arrêter sur le bord de la route. Que vous soyez un professeur, un grand musicien, un avocat ou un simple travailleur. Et donc pour les Noirs qui se piqueraient de vouloir se déplacer, c'est une provocation politique, c'est un acte de subversion. Donc bien sûr, ce livre qui permet aux Noirs de se déplacer dans le pays, elle s'adresse bien sûr à une toute petite infime minorité de Noirs, ceux de la classe supérieure, qui ont la possibilité d'avoir une voiture et qui ont en plus l'audace de penser qu'ils peuvent aller dans des terres de racisme et de violence pour se déplacer, sans doute pour aller voir leur famille, puisque la plupart des Noirs viennent du Sud, donc on a toujours un cousin, une grand-mère, un copain qui reste au Sud. Et donc il y a cette espèce de transgression consistant à dire « je quitte là où je suis pour aller en ces terres de racisme qui ne veulent pas de moi, me déplacer, c'est-à-dire exercer le signe même de ma citoyenneté ». Et donc c'est évidemment une provocation insupportable au raciste. Donc il y a quelque chose presque de l'ordre de l'opération kamikaze, ou en tout cas d'une espèce de provocation politique. Se déplacer au Sud, c'est un acte politique.
I don't think Victor Green really understood the impact of what the Green Book was going to become. And in so many ways, he literally moved a race of people throughout the country.
Je ne crois pas que Victor Green avait imaginé l'impact qu'allait avoir son guide, sachant qu'il a littéralement permis à une race entière de se déplacer dignement à travers tout le pays. C'est quelque chose de très puissant. Les gens se retrouvaient dans leur communauté et ça leur a permis de ressentir une liberté dont ils avaient été privés jusque-là. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ça. On sait peu de choses sur lui. Il était marié à cette femme merveilleuse, Alma Duke Green, et ensemble ils formaient un couple fabuleux, très beau et toujours tiré à quatre épingles. Ils n'étaient pas riches, mais ils avaient de la classe et de la distinction. Ce qu'on peut dire avec certitude à propos de Victor Green, c'est qu'il n'était pas ce qu'on appelle un homme de race, un homme engagé politiquement, pro-noir du genre Black Panthers, qui revendiquait vouloir changer les choses. On peut dire que c'était un homme plutôt détendu. Et je ne sais pas si c'était voulu de sa part, mais il avait tendance dans son guide à ne pas souligner les problèmes que clairement la grande majorité des Noirs américains connaissaient sur la route. Tout le monde le savait. Il y avait les lynchages. Et le Chicago Defender était un magazine incroyable qui racontait toutes ces histoires. Surtout à propos des Noirs qui, pendant la seconde vague de la grande migration, avaient fui en masse la terreur raciale du Sud. Ils étaient à l'époque plus d'1,5 million à avoir fui le Sud. Et à ce moment-là, le Green Book était à son apogée. Donc il était très clair pour tout le monde que le voyage n'était pas sûr pour les Noirs. Mais c'est vrai, le Green Book a toujours gardé un ton léger. En même temps, c'était une façon d'encourager les gens à bouger, une façon de dire « on ne va pas se focaliser sur ce qui ne va pas, on va garder la tête haute et partir en vacances comme n'importe quel Américain ». C'est ça l'Overground Railroad. Nous sommes là, nous profiterons des bars, des clubs, des plages, comme les Blancs, et ils n'auront qu'à s'y faire.
La ségrégation a imposé sa loi des reins dès les années 20 et 30. Toute trahison de cette injonction à rester sur place, à être la propriété symbolique d'eux, c'est-à-dire appartenir à un comté, à être ségrégé, c'est-à-dire littéralement maintenu derrière la ligne. Si vous transgressez cette ligne-là, c'est comme l'ascension sociale. L'ascension sociale, c'est une métaphore de la mobilité. Vous quittez votre statut initial pour vous ériger, pour vous élever dans la société. Vous pouvez être condamné par la mort. C'est-à-dire que les lynchages, les milliers de morts assassinés dans le sud et l'ouest des États-Unis, de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 40, sont principalement provoqués par la jalousie, le ressentiment, la colère, la rage que ressentent les Blancs face à la ascension sociale ou à la mobilité des Noirs. Et donc, puisque avoir accès à la voiture et à la mobilité, c'est le signe d'une certaine forme de réussite et aussi d'une audace politique, eh bien, vous pouviez être arrêté, sans doute, on vous volera vos papiers, un peu d'argent, etc., etc., et vous devrez subir le rite de l'humiliation pour pouvoir repartir. Même s'il n'avait pas la violence physique et la menace de mort, le simple fait de vivre dans une peur perpétuelle, d'être en permanence sur le qui-vive, c'est déjà une forme de violence.
Ce guide, il s'appelle le Negro Negro Motorist Green Book pendant longtemps, jusqu'en tout cas 52. Après, il est devenu le Traveler's Book. Motoriste, ça c'était une question importante, la question de la voiture, puisque c'était le livre de l'automobiliste noir.
Alors c'est très compliqué l'histoire de la voiture aux États-Unis, surtout l'histoire de la voiture et de la consommation de masse. Vous le savez, le premier à avoir rendu la voiture populaire et largement accessible aux États-Unis, c'est Henry Ford dans ses usines de Détroit. Alors on sait que il y a l'image d'Épinal de Henry Ford qui fait venir des centaines de milliers de travailleurs du Sud, et ces Noirs, en quittant le Sud, la jolie histoire voudrait qu'ils aient trouvé au Nord plus de liberté, des opportunités économiques qui leur étaient interdites au Sud, et un bon salaire, parce que l'histoire veut que Henry Ford donnait un bon salaire, le fameux $5 par jour, aujourd'hui on parle des $15 de l'heure, à l'époque c'était $5 par jour, à tous ces ouvriers. Donc ça c'est la belle histoire. La réalité c'est que Henry Ford était un racialiste carabiné, et qu'il organisait la division du travail au sein de ses usines en fonction de la race de ses travailleurs, et que les Noirs étaient utilisés non seulement pour casser les grèves, mais pour effectuer les tâches les plus dangereuses, les plus douloureuses, les plus difficiles, et que par ailleurs, ils participaient en Afrique du Sud et au Brésil à l'exploitation des Noirs, et qu'il avait une vision d'ensemble de ce que devait être la domination blanche. Donc il y a quelque chose d'un peu ambivalent dans ce rapport à la voiture, c'est-à-dire qu'à la fois le Noir est accepté comme travailleur et comme consommateur potentiel de la voiture, et qu'en même temps, la voiture est devenue, en particulier dans l'après-guerre, le symbole de la classe moyenne blanche. Et si les Noirs y ont accès, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui trouble le système. Et donc, tout Noir avec une voiture au Sud est une provocation, sauf si le Noir est le chauffeur. Et on a toute cette image, hein, Miss Daisy, etc., tous ces films et toute cette représentation du Noir comme chauffeur. Mais l'idée que le Noir est propriétaire de sa voiture, c'est quelque chose qui est une provocation, et ce à double niveau, puisque si la voiture est une Ford, c'est aussi cette espèce de duplicité du grand rêve américain de la voiture c'est la mobilité, la voiture c'est l'égalité, c'est tout le monde est la classe moyenne. En réalité, ce mythe-là est construit sur le sang, la sueur et l'exploitation des Noirs.
Look down, that lonesome road before you travel on. Look up, and speak your maker. Oh, gave your glory on. We recalled on such a low, reaching down that lonesome road. Look down, that lonesome road before
My name is Herbert Suleiman.
Je m'appelle Herbert Suleiman et je suis aussi connu sous le nom de Herbert Riley. Mon père et ma mère avaient l'habitude de beaucoup voyager. Et je me rappelle de notre vieille Buick. On allait avec jusqu'à la plage de Myrtle. Et des fois, on faisait des longues distances. Je ne me rappelle plus exactement où on allait, et quand on se déplaçait, mon père avait toujours le Green Book avec lui. À l'époque, c'était dangereux de voyager, et il fallait savoir où vous alliez, et que tout soit bien préparé avant de partir. Voyager à cette époque, ça voulait dire pour les femmes préparer le repas la veille, remplir de gros thermos, préparer des œufs, faire des sandwichs au jambon, préparer le poulet grillé. C'était comme un pique-nique. C'était drôle pour un enfant. Je me rappelle qu'on emmenait des bidons d'essence pour les longs trajets, surtout si c'était une nouvelle destination. Parce que sur la route, on ne pouvait aller que dans les stations Esso. Je me souviens très bien de l'odeur des bidons d'essence qui venaient du coffre. On n'oublie pas les odeurs. Je me rappelle qu'on a connu quelques ennuis sur la route. On a croisé plusieurs rassemblements du clan dans les années 60, en particulier autour de Salisbury en Caroline du Nord, et même à Myrtle Beach. Ma mère était très blanche de peau, et on la prenait souvent pour une femme blanche. Alors qu'on s'approchait de la plage, on a vu ce rassemblement du Ku Klux Klan. Je crois que c'était une parade. À un moment, ils ont arrêté la voiture, et ils ont vu ma mère à l'intérieur. Moi, j'étais trop petit pour avoir peur ou imaginer que quelque chose de mauvais pouvait arriver. Mais ma mère était effrayée, ça je peux vous le dire. Mon père est sorti de la voiture, il a discuté avec un des gars dehors pendant 5 minutes, et puis on a pu repartir. Je n'oublierai jamais l'état de ma mère après ça. Elle tremblait de partout. Elle avait dû voir des choses ce jour-là que je n'avais pas vues.
Black travel was very difficult and you had to plan weeks in advance.
Voyager pour les Noirs, c'était quelque chose de très compliqué. Il fallait tout planifier, parfois des semaines en avance. Vous assurer de tout avoir, assez de couverture, du matériel de camping au cas où vous ne trouviez aucun endroit où dormir, des paravents pour pouvoir faire votre toilette dehors, parce que même si certaines stations-service vous vendaient de l'essence, elles vous refusaient l'accès aux toilettes. En gros, vous ne saviez jamais à quoi vous attendre. Il fallait être prêt. Vous savez, il y avait aussi ces boîtes de chaussures pour les repas qui étaient très populaires à l'époque. C'est d'ailleurs resté un objet iconique chez ceux qui les ont connus. Mais oui, il fallait toujours prévoir assez de nourriture, prévoir des glacières, des bidons d'essence, parce qu'une fois de plus, beaucoup d'endroits ne servaient pas les Noirs. Donc c'était une expérience à part.
And there were, you know, some of your listeners may not realize, America.
Certains de vos auditeurs ne le réalisent peut-être pas, mais les États-Unis sont un très grand pays avec des endroits très isolés où il est difficile de voyager en oubliant votre couleur de peau. Donc c'était une sacrée aventure et il fallait pas mal de courage aux Noirs pour se dire on y va quand même. Et là encore, le Green Book était le meilleur moyen de rendre le voyage possible et plus sûr.
Separate but equal, séparés mais égaux. C'est la doctrine qui, dès 1896, a fondé la ségrégation sans jamais avouer explicitement son véritable objet, la légalisation du racisme. Ainsi, sur la route, un itinéraire bis s'est dessiné pour les voyageurs noirs, à l'image de leur citoyenneté. Ce qu'on appelle l'expérience noire, en regard du conte de fées que l'Amérique blanche, elle, aimait à se raconter. Cette épreuve du réel va laisser des traces. Et Candice Taylor en parle dans son livre, au sujet de son beau-père Ron qui, des décennies après la fin de la ségrégation en 64, continuait à tout préparer avant de prendre la route.
Yes, and again, that was what I mentioned earlier. It was one of those things that he would do, and I never understood.
Oui, et ça fait partie des choses que j'ai mis du temps à comprendre chez lui. Pourquoi il continuait à faire ça? Par exemple, quand il rentrait à Memphis, dans le Tennessee, il ne roulait jamais de jour, et ça me rendait folle, parce que je savais qu'il allait partir à 10 heures du soir et rouler toute la nuit. Et j'avais peur qu'il s'endorme au volant. Et à chaque fois, je lui disais, « Mais pourquoi tu ne roules pas la journée comme tout le monde ?» Et lui répondait toujours, « Oh, trop de trafic !» C'était sa réponse systématiquement. Et moi, avant d'écrire ce livre, je n'avais pas réalisé ce que ça voulait dire. La nuit, il devenait invisible. Il n'était plus un conducteur noir. Et il n'était pas arrêté par les forces de l'ordre. C'est en écrivant le livre que j'ai réalisé que c'était une cicatrice de toutes ces années passées. Certes, ce n'était plus sa réalité, et d'une certaine manière, lui aussi le savait. Mais ces cicatrices émotionnelles étaient encore là, et elles apparaissaient à certains moments, comme celui-là. Donc oui, ça m'a surpris. Malgré toutes ces années passées à ses côtés, d'avoir mis autant de temps à comprendre ses comportements.
There will be a day sometime in the near future when this guide will not have to be published.
Bientôt, dans un avenir proche, il y aura un jour où ce guide n'aura plus de raison d'être publié. Ce jour sera celui où nous, en tant que race, nous aurons les mêmes opportunités et les mêmes prérogatives aux États-Unis. Ce jour sera un grand jour, et nous pourrons suspendre, alors, la publication de ce guide, parce que nous pourrons enfin aller où bon nous semble, sans aucun embarras. Mais en attendant ce jour, nous continuerons à publier ce titre pour votre commodité chaque année. Victor Green, 1951.
L'équilibre des forces dans les années 30, 40, 50 et 60 va dans le sens d'un mouvement des droits civiques extrêmement actif qui entend passer de l'individuel au collectif. Les années 30, c'est le grand mouvement syndical d'inspiration communiste qui défend l'égalité raciale aux États-Unis. Les années 40 et 50, avec la guerre, ce sont beaucoup d'anciens combattants qui reviennent d'Europe, qui ont une autre mobilité. Ils ont traversé l'Atlantique, ils reviennent avec l'idée qu'ils ont combattu le nazisme et le racisme et qu'ils vont réclamer les droits civiques parce qu'ils ont servi sous l'uniforme, qui reviennent au Sud et qui joignent la NAACP ou les organisations comme celle de Martin Luther King, la SCLC. Et donc, le grand récit des années 30, 40 et 50, c'est celui de comment est-ce que l'Église parvient à unifier collectivement pour mettre en cause la ségrégation dans les institutions blanches.
C'est-à-dire qu'on arrête de contourner le problème, mais on lui fait face.
Et surtout, on passe de l'initiative individuelle, de chacun qui fait sa petite mayonnaise pour essayer de d'arriver d'un point A à un point B, à l'idée du collectif. Et tout le débat dans les droits civiques, c'est comment convaincre des gens qui finalement, pour certains, s'étaient résignés à s'adapter à cette violence parce que la terreur fait que vous préférez vous adapter, utiliser les institutions communautaires locales, compter sur l'Église pour trouver une forme de salvation morale, etc. Comment est-ce que les gens comme Martin Luther King, comme les étudiants, comme toute cette génération de militants du Sud ont essayé de galvaniser les gens pour leur dire surmonter la peur, pour collectivement changer le système. Et donc le Green Book est apparu un peu obsolète dans ce grand récit-là. Et une fois la ségrégation légale interdite, bien les Noirs ont eu la possibilité d'accéder à tous les commerces. Sauf que ce que l'on ne dit pas, c'est que ce sont les inégalités économiques qui désormais sont la source de l'inégalité. C'est-à-dire que les pauvres sont demeurés pauvres et que ceux qui ne pouvaient pas accéder au commerce noir du temps du Green Book parce qu'ils étaient trop pauvres, n'ont pas davantage la possibilité d'accéder au commerce déségrégué après les années 64-65. Donc il y a une certaine forme d'obsolescence de ce Green Book qui correspondait vraiment à une histoire et qui est un temps d'avant l'engagement collectif pour la lutte.
Parce qu'il existe mille façons de lutter, résister, on va continuer la semaine prochaine de feuilleter les pages du Green Book autour de l'élan collectif qu'il a pourtant bel et bien incarné. Car le Green Book était aussi un formidable annuaire des différents sites de la communauté noire qui racontent sa prospérité et sa vitalité. Dans ce deuxième épisode, nous interrogerons également les continuités actuelles de la mobilité noire, alors que les récentes mobilisations du mouvement Black Lives Matter nous rappellent à quel point, sur la route, se déplacer quand on est noir est encore un risque. Merci à Candice Taylor pour sa participation et ses archives. Merci à la Library of Congress. Merci à François Porcheron, Vladimir Cagnolari, Mathieu Détain, Michael Goncalves, Simon De Creuse, Yann Bourdelas, Michael Fitzpatrick et surtout Laure Allary, réalisatrice de l'émission. Laure et moi-même, on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce voyage. Et d'ici là, portez-vous bien, partez loin, même en pensée.